pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, nous pourrions chaque semaine débuter l'émission par cette sirène pour vous alerter sur la gravité de l'état du monde. Alors au-delà du fait que ça nous casse les oreilles, c'est semble-t-il contre-productif car la peur engendre le repli et donc l'inaction. Il faut construire de nouvelles fictions, sortir du conditionnement mental dans lequel nous sommes qui, par exemple, ne nous offre qu'un seul horizon, travailler pour gagner de l'argent et acheter à crédit notre maison. Nous sommes emprisonnés par la religion de la croissance, l'illusion d'une vie de divertissement sur nos écrans et un cadre législatif qui entretient l'illusion que nous vivons en démocratie. Je sais, c'est dense, mais pas de panique, tout ce que je viens de dire est une forme de synthèse du dernier livre de l'écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste Cyril Dion, Petit manuel de résistance contemporaine, publié chez Actes Sud, et ça tombe bien, il est notre invité.
C'est pas du vent, sur RFI.
Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
Dans votre livre, vous écrivez « Ne pas être terrifié par ce que les prochaines décennies nous réservent relève de l'optimisme béat ou de l'acte de bravoure ». La situation est donc grave.
Je ne sais pas s'il faut encore le répéter, mais oui, la situation est très grave. On est dans la sixième extinction de masse des espèces. On a des chiffres aujourd'hui qui sont de l'ordre de 50% des populations de vertébrés qu'on a perdues ces 40 dernières années. 80% des insectes volants en Europe, 30% des oiseaux. Parallèlement, le réchauffement va plus vite que ce qu'on imaginait. Il y a un scénario interne qui a fuité de chez BP et Shell, qui a été relayé par la presse anglaise il y a quelques mois. Et le scénario interne de ces pétroliers, c'est qu'on sera à plus 5 degrés en 2050. Plus 5 degrés en 2050, ça veut dire qu'il y a des zones entières de la planète qui vont se réchauffer, notamment en Arctique et en Sibérie, qui renferment des quantités faramineuses de méthane et de gaz à effet de serre. Si tout ça se libère, ça va provoquer des phénomènes d'emballement en chaîne qui nous emmènent à 6-7 degrés. À 6-7 degrés, il y a des endroits sur la planète où on peut plus habiter. Notamment toutes les zones qui sont autour de l'équateur, évidemment les zones autour du Sahel. Ce qui veut dire que les personnes qui habitent là, elles vont ou mourir ou migrer. Quand on voit les problèmes que les migrations engendrent déjà dans nos pays, alors que c'est quand même relativement peu, et que l'ONU parle de 250 millions de réfugiés d'ici 2050, on imagine bien qu'il faut trouver une solution avant que ça se produise. Donc on voit bien que sur ce sujet-là, comme sur un autre, la destruction des coraux dans l'océan ou de la vie marine, puisque on imagine qu'on pourrait avoir plus de plastique dans l'océan en 2050 que de poissons. Les sols sont en train d'être détruits de façon aussi assez méthodique avec l'agriculture chimique. On rase les forêts, on pollue les nappes phréatiques, on gaspille l'eau, on crée des montagnes de déchets. C'est assez impressionnant si on regarde les chiffres les uns derrière les autres.
Finalement, c'était une bonne idée, mettre une sirène au début de cette émission.
Ben oui, mais comme vous le disiez très justement, la sirène, ça ne suffit pas.
Oui, parce que par exemple, nous sommes biberonnés encore aujourd'hui aux énergies fossiles. Et vous dites qu'un aller-retour Londres-New York, ça coûte 3 mètres carrés de banquise.
C'est ça.
Faut y penser quand on est dans l'avion. Tout le monde ne prend pas l'avion, je crois que c'est seulement 3% de la population mondiale.
Non, mais c'est un peu plus maintenant. C'est plutôt de l'ordre de 10 à 20%.
Ah, ça monte, beaucoup.
Mais c'est quand même une minorité. Évidemment, il faut y penser. Mais ce qui est très intéressant, c'est que comme notre cerveau est fait de mécanismes qui observent le court terme et le long terme, à chaque fois qu'on reçoit une information, il y a une espèce de pondération qui se fait pour voir comment on va réagir. Donc là, en l'occurrence, quand on est tenté de prendre l'avion, admettons qu'il y a une super promotion pour aller passer une semaine aux Antilles et que c'est l'hiver et qu'on a vraiment, vraiment envie de se ressourcer, on va penser à ça. On va se dire, ah oui, mais tu te souviens, un aller-retour Paris-New York, c'est 3 mètres carrés de banquise en moins. Oui, mais ça nous ferait quand même vachement de bien de partir en vacances.
Et puis tous les autres le font, alors pourquoi pas moi?
Oui, mais en fait, le problème, c'est que c'est un truc de gain et de perte. Le gain de ne pas prendre cet avion, c'est un gain à moyen ou long terme. C'est-à-dire que si vous prenez pas cet avion, peut-être que dans 20 ans ou dans 30 ans, le climat se sera moins réchauffé, que vous vivrez dans un monde qui sera moins chaotique ou que vos enfants vivront dans un monde moins chaotique. Mais c'est hypothétique. Donc, on va forcément se dire, est-ce que c'est vrai déjà, cette histoire de changement climatique? Est-ce que si moi, tout seul, je prends cet avion, ça fait vraiment une différence? C'est pas sûr. Alors que le gain, lui, à court terme, il est certain. Ça va vraiment vous faire du bien de partir en vacances. Et le cerveau est programmé pour maintenir une espèce d'homéostasie, c'est-à-dire une espèce d'état de bien-être, qui nous conduit très souvent à choisir les choses qui nous font du bien à court terme plutôt que les choses qui nous feraient peut-être du bien à moyen ou long terme, ou les dangers qu'on nous annonce qui, encore une fois, ne sont pas avérés et qui sont à plus long terme. Donc c'est toujours un peu perdu d'avance pour le billet d'avion, mais aussi pour le gros burger qui a l'air quand même d'être vachement très bon, ou toutes les choses qu'on fait qui ont un impact relativement néfaste.
Alors à partir de là, que faut-il faire? C'est le sujet de votre petit manuel de résistance contemporaine sous-titre « Récits et stratégies pour changer le monde », rien que cela. Alors certains prennent des décisions radicales, comme choisir de vivre en autonomie. Comme Thibaut, il habite une maison perchée dans les montagnes. Il a expliqué sa démarche à la documentariste Muriel Barra.
Tu t'es installé ici, t'avais quel âge?
J'avais quel âge? J'avais donc 25 ans.
25 ans? Comment on prend la décision de venir s'installer là et pour y faire quoi? Et
écoute, j'ai eu un vécu qui fait que j'ai eu des clics là même avant. À partir de 15 ans, j'ai commencé vraiment à me poser beaucoup un tas de questions. En fait, de me demander comment faire pour essayer de ne pas avoir un impact négatif sur la nature et essayer que la nature se fasse pas trop maltraiter. Et du coup, ben, c'est ce que j'essaye de faire à mon propre échelle. Et chacun est sur son chemin, et ben, moi sur ce chemin-là.
Ta démarche à toi, c'est avant de changer le monde, j'essaye de me changer moi et d'être cohérent finalement, c'est ça?
Bah exactement. La cohérence, c'est d'abord en soi qu'on la trouve. Et c'est avec nos achats qu'on fait qu'on cautionne ceci ou cela. Ou c'est avec notre manière de nous comporter qu'on cautionne ceci ou cela, tel ou tel comportement, telle norme sociale, etc. etc. C'est nous sommes la clé et nous sommes puissants. À terme, je pense arriver à être beaucoup plus autonome et à être en réseau avec d'autres personnes qui veulent ça, et indépendant finalement de l'État ou des lobbies, des supermarchés, etc.
Le témoignage de Thibaut est extrait de la série documentaire Un autre chemin de Muriel Barra. Cyril Dion, comment réagissez-vous à ce témoignage?
En fait, il y a vraiment une frontière entre les personnes qui sont dans la volonté de recréer une forme de cohérence à leur échelle, comme a pu le faire Pierre Rabhi, par exemple, avec qui j'ai travaillé pendant des années, et d'autres, et qui du coup se disent c'est comme ça que le monde va se transformer, et ça sert à rien d'essayer de s'exciter à changer les multinationales ou les gouvernements, parce que de toute façon, structurellement, on n'y arrivera pas. Et puis, il y a une autre frange de personnes qui, eux, essayent justement d'avoir un impact sur les structures actuelles de la société.
Alors c'est un peu plus votre démarche, cette deuxième démarche, parce que le problème, c'est qu'il y a quand même une question d'échelle, même par rapport à l'action de Thibaut, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, puisque vous rappelez que prendre une douche plutôt qu'un bain, c'est plutôt sympathique, mais ça semble dérisoire quand on sait que 92% de l'eau utilisée sur la planète l'est par l'agriculture et l'industrie. C'est pareil pour le tri des déchets, on se dit « allez, je vais être un bon citoyen, je vais trier les déchets ménagers ». En France, c'est 8,5%, je crois, de l'ensemble des déchets, aux États-Unis, c'est 3%. C'est quand même assez décourageant.
C'est décourageant si, effectivement, on avait l'impression que c'est en faisant ça qu'on allait tout changer. Mais en réalité, à un moment, il faut que les structures politique, économique, culturel se transforme. Et que ce que j'appelle les architectures, c'est-à-dire les choses qui conditionnent nos comportements au quotidien, se modifient. Sinon, on reste dans quelque chose qui est une petite action face à une montagne. C'est un peu ce qu'on a montré à San Francisco, par exemple, où la ville est en train de parvenir à presque à zéro déchet. Ils sont à 82% de déchets recyclés ou compostés sur l'ensemble des déchets de la ville, y compris les déchets du bâtiment. Et ils l'ont fait parce que, structurellement, à San Francisco, si vous ne recyclez pas ou si vous ne compostez pas, ça vous coûte plus cher. Donc, il y a un paquet de gens qui le font pour des raisons simplement économiques, pas par pure conviction. Et parallèlement à ça, c'est très facile de le faire. C'est-à-dire que structurellement, la ville a mis en place ces fameuses trois poubelles partout dans la ville. Quand je suis retourné aux États-Unis à San Francisco pour la sortie du film au mois d'avril de l'année dernière.
Du film Demain, donc.
Du film Demain, oui, pardon. On a déjeuné un moment sur le marché qui est sur le port de San Francisco. Et c'était impressionnant parce que tous les gens qui vendaient de la nourriture, là, qui étaient sur des petits étals de marché, ils avaient que des assiettes, des couverts, des gobelets qui étaient tous compostables. Évidemment, la nourriture qui était dedans était compostable aussi. Donc, sur les poubelles du marché, la poubelle à compost était complètement pleine, mais elle explosait tellement il y avait de trucs dedans. La poubelle à recyclage, il y avait quelques trucs, et la poubelle noire du tout venant, il y avait rien. Donc là, on voit que il y a une espèce d'accélérateur qui peut se faire, qui est phénoménal. Ce qui veut évidemment pas dire qu'il faut pas agir à son échelle. C'est très important d'agir à son échelle. Mais le véritable impact de notre action, il est dans la conversation que ça va créer. Si vous devenez végétarien ou si vous allez en vélo au boulot, c'est la transformation culturelle que ça peut induire à travers l'histoire que vous racontez et le fait que d'autres personnes se mettent à le faire aussi, qui potentiellement peut participer à construire un récit plus vaste qui, lui, aura un impact systémique.
Voilà, parce que c'est ce que vous appelez construire une nouvelle fiction, mais ça sous-entend qu'il faut comprendre que nous vivons aujourd'hui dans une fiction. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Une fiction qui repose sur ce que vous appelez, vous venez de le dire, des architectures qui régissent nos vies, sans même que nous nous en rendions compte. Par exemple, vous pointez du doigt ce que vous appelez la religion de la croissance.
En fait, je pars du principe, et c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Nancy Houston, par exemple, qui le dit dans son essai formidable qui s'appelle « L'espèce fabulatrice » ou Yuval Harari aussi en parle dans « Sapiens » ou dans « Homo Deus », que tout est histoire, que les histoires sont le moyen pour les êtres humains de comprendre la réalité, mais aussi de l'interpréter et de la retranscrire. Et qu'à ce titre-là, l'ensemble des structures sociales, politiques, économiques ou religieuses que les êtres humains ont créées sur cette planète sont le fruit d'histoire. Quand on regarde la façon dont la religion chrétienne, par exemple, s'est propagée dans le monde, on peut lire ça dans le livre d'Emmanuel Carrère, Le Royaume, on voit que ça a été colporté par Paul, que les chrétiens appellent Saint Paul, qui n'était absolument pas contemporain de Jésus, enfin qui n'a jamais vécu à son contact, qui a raconté quelque chose dont il n'était pas le témoin. Et qui a eu des impacts considérables sur la transformation de nos sociétés, négatifs comme positifs. D'ailleurs, on peut considérer que les droits de l'homme sont un héritage de la philosophie chrétienne de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et « Dieu aime tout le monde sans discrimination ».
Et pour revenir à la religion de la croissance,
la croissance, la croissance ou le modèle actuel, c'est une histoire.
Donc c'est « tu dois faire des études pour avoir un salaire, pour devenir un consommateur, pour appartenir à la communauté ». Et à partir de là, tu achètes une maison à crédit. Bon, t'es un peu frustré, c'est pas trop grave parce que tu compenses en consommant. Et puis, de toute façon, comme ce que tu consommes va pas durer très longtemps parce qu'on a fait une obsolescence technique et puis on va vite démoder en faisant une obsolescence psychologique. Ben voilà, tu compenses en consommant, puis tout ira bien. Donc c'est ça la fiction dans laquelle nous vivons aujourd'hui ?
Oui, c'est un monde, en tout cas, où l'axiome de base de ce monde-là, c'est de dire plus tu vas avoir de possessions matérielles, plus tu vas avoir de confort, plus tu vas participer au développement technologique, plus tu vas être heureux. C'est une espèce d'aboutissement de la civilisation. Et donc tant qu'on croit ça, bah évidemment on est tenté de faire tourner la machine. Donc de faire ça, d'avoir un boulot qui nous permet d'avoir de l'argent, qui nous permet de consommer, qui nous permet d'avoir de plus en plus de confort, etc. Et c'est cette histoire-là qu'il faut remettre en question.
Mais c'est difficile. C'est difficile de comprendre que cette histoire-là doit être mise en question, comme c'est difficile, par exemple, de comprendre que nous sommes conditionnés par notre addiction aux écrans, hein, entre la télévision, les smartphones, les ordinateurs. Un occidental passe entre 8 et 10 heures par jour sur un écran avec l'illusion, là aussi, de se divertir. Une illusion savamment orchestrée par les ingénieurs de la Silicon Valley américaine, à tel point que la culpabilité ronge certains d'entre eux, comme le prouve cet extrait de l'émission Envoyé spécial du 18 janvier dernier, diffusé par nos collègues de France 2.
C'est ici, dans la Silicon Valley, que nos vies virtuelles sont façonnées. Facebook, Google, Apple. L'industrie du numérique a commencé ici sa grande aventure, il y a 30 ans. Et parmi les cadres de haut niveau qui étaient là au tout début, certains se sentent désormais coupables.
Tu exploites une vulnérabilité de la psychologie humaine. Les inventeurs, les créateurs, C'est moi, c'est Mark, c'est le gars d'Instagram. On avait compris tout ça. Et consciemment, on l'a fait quand même.
Puis c'est un autre cadre de haut niveau de Facebook qui va sortir de l'ombre.
Les gratifications en boucle à base de dopamine que nous avons créées sont en train de détruire la société. Si tu nourris la bête te détruira.
Vous avez dit c'est le moment de l'examen de conscience. Et vous là-dedans ?
Je me sens terriblement coupable. Je pense qu'au très fond de nous-mêmes, nous savions que quelque chose de mauvais pouvait survenir. Je peux contrôler mes décisions. Je n'utilise pas cette merde et j'interdis à mes gosses d'utiliser cette merde.
À l'époque, je me disais, je ne fais rien de mal. Je donne aux gens ce qu'ils veulent. S'ils passent plus de temps sur mon application, ils font ce qu'ils veulent, je ne force personne. Mais j'ai réalisé qu'il y a une différence entre ce que nous voulons vraiment et ce que nous faisons. On ne paye pas pour Facebook, pour Google ou tous ces services que nous utilisons. Comment ça se fait ? Parce que nous ne sommes pas le client, nous sommes le produit. Ce sont nos yeux et notre attention qui sont marchandés sur ces plateformes.
Et vous venez d'entendre Sean Parker, cofondateur de Facebook, Shamat Palihapitiya, ancien vice-président de Facebook, et Max Tossel, qui est à la tête de l'association Time Well Spent, qu'on peut traduire par temps bien dépensé, qui réunit quand même des repentis de la Silicon Valley. C'est-à-dire que c'est un lien, ils ont même créé une association. La culpabilité est vraiment là, et nous, tous les jours, on consomme ce qu'ils ont créé.
Ben oui, il y a une logique qui va avec ce qu'on disait avant de la religion de la croissance. C'est-à-dire que il y a un moment où on est contraint, dans une certaine mesure, de trouver un emploi pour gagner de l'argent tous les jours, pour pouvoir fonctionner dans ce monde-là. On nous explique depuis tout petit que l'emploi est rare, qu'il est cher, donc quand, si on en trouve un, en gros, faut pas trop se plaindre, faut le prendre. Mais c'est pas, la plupart du temps, quelque chose qui est vraiment en lien avec nos aspirations, qui nous permet d'exprimer nos talents, qui nous rend heureux. Donc il y a un moment, il nous faut une soupape. Donc il y a une soupape qui est la consommation, qui est acheter des trucs, mais il y a une soupape qui est le divertissement, qui est de se changer les idées quand on rentre à la maison. Là, sur les 8 heures qu'on passe devant les écrans en moyenne en France, il y a 4 heures de télé et 4 heures de Instagram, Facebook, Google, etc. Et comme ça a été construit, effectivement, et conçu pour capter l'attention, c'est ce qu'ils appellent maintenant l'économie de l'attention, plus vous restez longtemps sur une application, plus vous restez longtemps sur un site, et plus vous, ensuite le site ou l'application peut vendre de la publicité ou peut vendre des données personnelles qu'ils récoltent pour des marques qui ensuite vont vous cibler pour vous vendre des trucs, pour continuer à faire grimper cette croissance et ce profit, etc., plus ils sont contents. Donc tout ça est une espèce de cercle qui se referme un peu sur nous.
Il faut donc, et c'est ce que vous démontrez, réussir à changer notre récit personnel. Alors comment on s'y prend ? On en parle juste après une petite pause musicale.
Shadows of the city.
du groupe kényan Owinsigoma Band dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Nous sommes en compagnie de Cyril Dion qui vient de publier Petit manuel de résistance contemporaine chez Actes Sud. Cyril Dion, vous démontrez dans votre livre que ce n'est pas l'accumulation de nos petits gestes comme trier les déchets, manger moins de viande ou faire du vélo qui changera la donne, mais qu'il faut aller plus loin en construisant de nouvelles histoires qui nous donnent envie de changer les choses à grande échelle. C'est ce que fait par exemple Isabelle Delannoy. Elle a fait le tour du monde des initiatives économiques respectueuses de la planète et des citoyens. Elle en a fait la synthèse dans son livre L'économie symbiotique, un concept qu'elle nous avait expliqué dans C'est pas du vent.
L'idée, c'est qu'on est en train d'inventer aujourd'hui, depuis environ une cinquantaine d'années, une économie qui est capable de régénérer ses ressources, qu'elles soient écologiques, économiques, les parties prenantes avec qui on travaille, hein, ses fournisseurs, ses clients, etc., ses usagers, et sociales.
Donc à partir de là, on mutualise les trois et on va s'en sortir.
Quand on rapproche les trois, en fait, on a des logiques qui sont apparues dans le monde entier où ce que j'ai mis en évidence, c'est qu'elles fonctionnaient de la même façon et qu'elles travaillaient en écosystème, en fait. Écosystème industriel, écosystème économique, écosystème vivant, écosystème sociaux, et qu'elles sont capables de régénérer leurs ressources. Et quand toutes ces logiques qui sont apparues de façon très disparate dans le monde, hein, l'économie circulaire, la permaculture, culture, l'agroécologie, les énergies...
Parce que Bénédicte Magnier, dans son livre, appelait les révolutions tranquilles.
Exactement. C'est ce million de révolutions tranquilles qui est apparu sur toute la planète, eh bien, fonctionne de la même façon et est apparu dans tous les secteurs. Et donc, ça forme un système économique complet. Et c'est né, il semble que dans le silence, nos sociétés ont vraiment accouché d'un nouveau modèle.
Cyril Dion, voilà un exemple de récit qui peut nous inspirer.
Oui, bien sûr. De dire aujourd'hui l'économie, ça devrait être quelque chose qui régénère les écosystèmes plutôt que quelque chose qui les détruit et qui produit des déchets, c'est un super récit. De dire on pourrait gagner de l'argent et avoir un revenu sans être obligé de travailler, qui est le revenu universel, qui est aussi un récit.
Alors ça, c'est évidemment, ça inquiète beaucoup de gens en disant, mais comment on pourrait payer des gens à ne rien faire? Alors dans votre livre, vous dites, bah si, c'est assez simple, enfin, pas vous tout seul, hein, il y a plein de calculs d'analyse que vous avez lus, etc. Mais vous dites, en gros, ce qui est pas mal, c'est de donner 400 euros aux enfants, 1000 euros aux adultes, même s'ils ne travaillent pas, parce que ça va justement libérer de la créativité et quelque part désacraliser l'argent.
En fait, il y a plusieurs expériences qui ont été menées à la fois en Angleterre, à la fois aux Pays-Bas, montrant que, d'une part, si on fait des calculs, ça c'est des calculs qui ont été faits en France, sur l'ensemble de l'aide sociale qui est distribuée aujourd'hui, et qu'on remplace une partie de cette aide sociale par cette allocation universelle, on voit qu'économiquement, ça tient à peu près la route. Ensuite, on voit qu'il y a d'immenses gains de productivité qui sont faits dans la société, qu'on gagne de plus en plus d'argent, mais que cet argent est extrêmement concentré à quelques endroits. Aujourd'hui, les chiffres d'Oxfam, alors je sais pas ce que c'est en 2017, mais en 2016, c'était 8 personnes sur la planète qui possèdent autant d'argent que 3,5 milliards d'autres. Donc, on voit bien que ces gains de productivité, ils pourraient être partagés de façon beaucoup plus équitable pour permettre à un maximum de gens de choisir ce qu'ils font. De se dire, tiens, moi j'aurais envie d'être maraîcher bio, simplement, ça gagne pas beaucoup d'argent. On gagne, en gros, un petit SMIC. Bah, si j'avais déjà 1000 euros par mois, c'est super, économiquement ça marche. Je veux me reconvertir, je fais un métier, mais aujourd'hui c'est un métier qui n'a pas vraiment de sens pour moi. Je voudrais faire autre chose. Bah, si je sais que j'ai au moins ce filet de sécurité-là, ça m'aide à faire cette transition.
Mais alors qui paye ce filet de sécurité?
En fait, il est payé à la fois par l'État, à travers ce que je disais, la conversion d'aide sociale. C'est un homme qui s'appelle Marc de Basquiat, qui est plutôt un libéral pur et dur, qui a fait une grande étude en regardant... Son intuition, c'était que l'aide sociale fonctionnait assez mal. En fait, qu'elle était mal répartie et qu'elle était très opaque. Donc, il a fait un immense tableau Excel avec, je crois, plus d'un million de cellules pour calculer ce que nous coûtait en réalité la façon dont la répartition des aides sociales se faisait aujourd'hui. Et il s'est rendu compte que ce serait à la fois beaucoup plus cohérent et beaucoup plus efficace de transformer cette aide sociale en revenu universel. Donc ça, c'est une partie. Une autre partie pourrait être collectée, là encore certainement par l'État, sous forme de taxes sur les transactions financières ou de taxes sur les gains de productivité au-delà d'un certain seuil de rentabilité très important chez des entreprises. Quand on voit aujourd'hui Apple, première capitalisation boursière avec quasiment, je sais plus ce que c'est, 100 milliards de dollars, enfin je veux dire, c'est des chiffres ahurissant et qui paye quasiment pas d'impôts, en tout cas en Europe, grâce à des montages d'optimisation fiscale, on voit qu'il y a des gisements incroyables de ponctions fiscales qui permettraient une répartition.
Et voilà pourquoi vous dites qu'il faut s'attaquer aux piliers du pouvoir, hein, dont le pilier économique et financier, avec notamment cette notion de la spirale infernale de l'argent virtuel. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce qu'on se rend compte que dans l'argent qui circule, ne serait-ce qu'en Europe, il y a 15% d'argent réel et 85% d'argent virtuel. Là aussi, c'est une fiction qu'il faut un petit peu éclairer.
Mais c'est vachement intéressant l'argent. C'est ce que dit, encore une fois, Yuval Harari. Il dit ça dans un TED à Londres, en disant l'argent, pour le coup, c'est un exemple extraordinaire de fiction, d'histoire. Le fait que vous ayez un petit bout de papier et que vous disiez ce petit bout de papier, par exemple, vaut 20 euros. Et je vais pouvoir échanger ce petit bout de papier contre des choses à manger ou contre, j'en sais rien, moi, une montre. C'est une convention. C'est quelque chose qu'on a décidé ensemble. Et c'est justement le fait que tout le monde croit à cette histoire et accepte de jouer à ce jeu-là qui fait que ça peut marcher. Mais on voit bien dans les moments de dévaluation, par exemple, que ce billet de 20 euros, il peut valoir 20 euros un jour et 40 le lendemain, ou au contraire plus que 5, parce qu'il y a eu une dévaluation, et donc que les règles du jeu changent. Et ce que très peu de gens savent, c'est la façon dont l'argent est créé aujourd'hui, qui là aussi est une convention, quelque chose qui a été déterminé à un moment. L'argent est créé à 15% en gros dans la zone euro par les banques centrales, donc nous la Banque Centrale Européenne, mais ça peut être la Fed aux États-Unis, et à 85% par le crédit, donc par les banques privées quand elles font des crédits. Donc si vous allez acheter une voiture par exemple, il faut que la banque ait 10 000 euros dans ses coffres pour pouvoir vous prêter 10 000 euros. Et ils vont prêter ces 10 000 euros qu'ils vont créer sur l'ordinateur, ça va être une ligne informatique qui va être créée ex nihilo, simplement en garantie des 10 000 qui existent déjà dans le coffre. Sauf que vous, ces 10 000 euros, vous allez les donner à la personne à qui vous allez acheter la voiture, qui va les mettre dans sa banque. Donc la banque de cette personne aura 10 000 euros réels qui lui permettront de créer 10 000 euros virtuels pour les prêter à quelqu'un d'autre, qui va les donner à la personne à qui il achètera le fruit de son crédit, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur de la monnaie, qui a pour conséquence qu'avec 1 euro réel, le vrai billet qu'on avait dans la banque, on a pu en créer jusqu'à 6 virtuels. Le problème de ça, c'est que quand vous allez rembourser votre crédit, quand vous allez rembourser vos 10 000 euros, le banquier, il va supprimer la ligne informatique sur son ordinateur. Ce qui fait que pour continuer à avoir suffisamment d'argent en circulation, il va falloir refaire des crédits. Sinon, on n'a plus suffisamment de masse monétaire. Donc, il va falloir de la croissance économique. Donc, le mécanisme de création monétaire, qui est encore une fois une convention, nous oblige à avoir de la croissance.
Et encore, ça, vous ne parlez pas des intérêts, parce que moi, quand je rembourse mon prêt de 10 000 euros pour ma voiture, je dois payer des intérêts qui, eux, ne sont créés nulle part. Il faut que je les paye avec mon salaire ou avec ce que je gagne.
Exactement.
Or, ce que je gagne dépend de la croissance, parce que si l'entreprise pour laquelle je travaille se casse la figure, je n'ai plus de salaire.
Vous allez être obligé de gagner plus d'argent en allant, en général, le chercher chez quelqu'un d'autre pour pouvoir rembourser vos intérêts. Donc, il faudra encore plus de croissance. Donc, c'est là où on a un incroyable levier qui est de dire on peut changer cette histoire. Décider qu'en fait, c'est pas que les banques centrales ou les banques privées par le crédit qui peuvent créer l'argent, mais que ça peut être des villes, que ça peut être des associations, comme c'est déjà le cas avec les monnaies locales ou les monnaies complémentaires, et que cet argent peut être créé sans intérêt, justement, pour éviter de rentrer dans cette espèce de spirale infernale et pour pouvoir aussi consacrer des monnaies à d'autres objets, faire des monnaies écologiques par exemple. La monnaie complémentaire qui marche le mieux dans le monde, c'est le miles. C'est les miles qu'on gagne quand on prend l'avion. Il y a 15 000 milliards de miles en circulation. Ça, c'est ce qu'on appelle une monnaie affectée. C'est une monnaie qui sert à acheter des billets d'avion. Mais on pourrait imaginer avoir des monnaies qui ne peuvent être dépensées, par exemple, que dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, bah, cette monnaie, vous pouvez la dépenser, mais que dans un endroit où ils font quelque chose qui est respectueux des gens et respectueux de la planète. Et à ce moment-là, vous stimulez une économie de façon extraordinaire parce que vous avez changé l'histoire, la convention qui permet de créer la monnaie.
Voilà, une belle histoire racontée, une belle fiction démontée. Et puis, on comprend à travers ce que vous venez d'expliquer qu'il faut commencer petit hein, pour s'attaquer au système et changer le monde, comme vous dites. Il faut commencer par des petits pas pour atteindre ce but plus ambitieux. Alors, je vous propose un exemple de petits pas pour faciliter, par exemple, l'accès à l'électricité et donc à l'autonomie à Madagascar. C'est l'approche femme ingénieure solaire qui est développée depuis 1972 par l'ONG indienne Barefoot College. 750 femmes ont été formées à travers le monde dans plus de 1300 villages. En 2012, le WWF International et Barefoot College ont décidé de collaborer pour diffuser ce projet à Madagascar, où le taux d'électrification en zone rurale est inférieur à 5%, alors que 70% de la population y vit. Pauline Bandelier s'est rendue sur place pour rencontrer les équipes du WWF dans la ville de Morondave, avant de visiter Ambakivao, l'un des 5 villages malgaches qui a bénéficié de cette approche.
Nous sommes dans les bureaux du WWF à Morondave et Voirana Radriambola, la coordinatrice de l'initiative Barefoot College au WWF Madagascar, présente les 4 femmes d'Ambakivao qui ont reçu de mars à septembre 2016 une formation pour devenir ingénieure solaire.
Rémé et Angéline n'ont quasiment pas de bagage scolaire, elles ne sont pas allées à l'école. Yank et Yolande, par contre, elles sont quand même allées, on va dire, assez loin dans le secondaire, puisque je crois que Yank est allée jusqu'en terminale, et peut-être Yolande aussi. Ce n'est pas un critère, en fait, qu'elles aient été à l'école ou pas à l'école. Le critère, c'est d'abord qu'elles soient volontaires, qu'elles soient dans la tranche d'âge 35-50 ans. Après plusieurs expériences de Barefoot College, on a vu que c'est une tranche d'âge stable, dans le sens où... Dans cette tranche d'âge, les femmes ne vont pas avoir l'idée, une fois qu'elles ont le savoir-faire, de quitter leur village, mais elles vont vouloir assurer l'amélioration des conditions de vie de leur famille et des enfants à venir. Et puis, on ne choisit pas des hommes, parce que les hommes, quand ils ont le savoir-faire, ils ont tendance à aller ailleurs pour trouver la rémunération qu'il faut, et puis parce qu'ils veulent aller ailleurs.
Depuis 2012, 27 femmes malgaches issues de 5 villages différents ont été formées pendant 6 mois à Delhi en Inde, un séjour financé entièrement par le gouvernement indien. Aux côtés d'autres élèves venus du monde entier, elles ont acquis les compétences nécessaires à la fabrication, à l'installation et à la maintenance de systèmes solaires en suivant des instructions mimées. Une vraie aventure pour ces femmes issues de milieux ruraux isolés et dont beaucoup n'avaient jamais voyagé au-delà du chef-lieu de leur village.
Il y a tout un parcours psychologique avant le départ. On les imprègne petit à petit. On les sort du village pour aller à la ville la plus proche pour faire des papiers, etc. Donc, elles sont déjà confrontées à un peu plus de modernité. Puis elles montent à Tana, où on les fait rencontrer les autorités, des gens importants, l'ambassadeur, etc. On leur fait rencontrer des journalistes dans certaines occasions. Et on leur fait dormir dans des hôtels avec les sanitaires qu'il y a. Bon, c'est absolument pas les mêmes conditions. On leur apprend des techniques, etc. On essaye de voir comment elles se débrouillent si elles vont dans la ville, la rue principale, comment elles s'orientent, etc. Donc c'est un parcours, un travail psychologique avant le voyage en Inde.
Le lendemain, nous prenons la route en direction d'Ambakivao. Après Morondave, plus de route goudronnée, mais une piste de terre que nous empruntons pendant 4 heures en 4x4, entourée par des chars à zébus. Remplie de trous, la route est impraticable pendant la saison des pluies. Nous faisons escale une nuit à Belo sur Tiribihina, à l'embouchure du fleuve. Une bourgade aux airs de Far West, dans laquelle il fait bon se promener. Pour rejoindre le village Barefoot, il nous faut encore prendre une navette le long du fleuve. À nos côtés, des piroguiers rament sereinement, donnant le sentiment d'un voyage hors du temps. Le long des berges, des mangroves. Depuis 2011, Ambakivao est l'un des 12 sites prioritaires du WWF pour la gestion durable des écosystèmes dans la région du Tiribihina. Devant la mangrove, Judikael Rakotondrazafi, responsable technique pour la zone, nous explique pourquoi le WWF a choisi Ambakivao pour la mise en place du projet d'électrification solaire.
Comme nous voyons ici, C'est le village d'Ambakfo qui possède les mangroves les plus intactes dans la région du Ménapé, même pour Madagascar. Et pour motiver aussi ces communautés très dynamiques dans la conservation, c'est pourquoi on l'a choisi comme endroit où on a mis en place le projet d'électrification rurale.
Bonjour. Comment allez-vous?
Très bien, merci à vous.
Ah, ouais, ouais.
Merci.
Bienvenue à Mbakivao.
Merci beaucoup.
Ah, ouais.
Nous apercevons au loin le village d'Ambakivao. Le premier contact avec les habitants qui nous reçoivent avec des chants et des danses de joie est profondément émouvant. C'est ensuite au tour du chef du village de nous accueillir plus formellement.
Bienvenue à vous qui venez de loin. Nous sommes contents de vous recevoir. Et au nom de tout le village, je vous souhaite la bienvenue. Je n'aurais jamais pensé que des gens de l'étranger viendraient jusqu'à ce village. Et nous sommes très honorés de votre venue.
Nous nous rendons maintenant dans la maison solaire, là où les quatre femmes ingénieures s'occupent de la maintenance des installations. Au retour de Yolande, de Remeza, d'Anicha et de Kinjlin d'Inde, un comité solaire local s'est créé sous la supervision des équipes du WWF. L'objectif, assurer la gestion pérenne du service d'électricité. Chaque comité coordonne la construction par les villageois d'une maison solaire qui abrite l'atelier de travail des femmes ingénieures solaires, ces dernières se déplaçant également auprès des ménages. Un travail qui leur permet chaque mois de toucher un complément de revenu de 10 euros, le salaire minimum étant de 30 euros à Madagascar. Yolande est en train de réparer un circuit intégré défectueux.
Tous les jours ici ?
Oui, oui.
Réparation ?
Oui, mais on fait partout. Une semaine pour elle, après l'autre.
D'accord, ça tourne.
Oui, ça tourne.
Toute la journée.
Toute la journée, matin, 8h à 12h, après, après-midi, c'est 3h à 5h.
Si pour chacune des quatre femmes, la décision de quitter sa famille pour partir 6 mois dans un pays étranger fut loin d'être facile, ce fut un défi tout particulier pour Remeza. Issue d'une famille de pêcheurs très pauvres, elle n'avait jamais étudié auparavant et n'était pas sûre d'être à la hauteur.
Avant ce programme, le fait de ne pas être allée à l'école était une honte pour moi. Je ne savais même pas écrire mon nom, je ne savais rien. Lorsque j'ai été choisie pour partir en Inde, j'avais toujours cette sensation de honte, notamment vis-à-vis de mes trois camarades, mais elles m'ont beaucoup encouragée. Une fois sur place, comme les cours ne nécessitaient pas de savoir lire, j'ai commencé à prendre confiance. On nous a dit, voilà, ça c'est un contrôleur de charge, ça c'est une lanterne, ça c'est une alimentation. C'était facile pour moi de mémoriser tout ça. Aujourd'hui, cette sensation de honte est partie. J'ai davantage confiance en moi.
Une expérience qui, Remeza l'espère, pourra inspirer d'autres femmes.
Mon message pour les femmes sans exception, qu'elles soient jeunes ou vieilles, c'est que l'éducation, c'est primordial. Je prends mon exemple. Je ne suis pas allée à l'école, je ne sais pas écrire, mais je me suis portée volontaire, car j'ai en moi une volonté d'apprendre. Je suis allée là-bas, j'ai appris et j'ai réussi à tout comprendre. Si vous avez une opportunité au travers d'une association ou autre, n'hésitez pas, ayez le courage d'apprendre.
Pour Voirana Radriambola, aucun doute, les femmes ont changé leur place au sein de leur communauté en devenant des ingénieurs solaires.
Quand on compare les villages, il n'y a rien. C'est clair, la place de la femme dans les villages, elle approche, est différente maintenant. La femme a toujours sa place, mais on ne la voit pas. Elle est derrière, quelquefois, l'homme qui va dans les réunions villageoises et elle est influente. Mais dans les villages à le barefoot, c'est plus comme ça. Ok, je suis là. Je ne suis pas derrière mon mari, je lui dis, je vais pas rien. Je vais aux réunions, je dis mon point de vue, vous m'écoutez ou vous ne m'écoutez pas, je vous convainc, etc. Donc c'est différent. La femme prend sa place, elle se monte dans la société et on la reconnaît. Elle a une place équilibrée comme l'homme. Elle est capable de faire des choses comme l'homme peut capable de faire des choses. Donc ça, c'est important, je pense.
Autre aspect enrichissant du voyage, la rencontre avec des femmes du monde entier, témoigne Anicha. Lorsque nous étions en Inde, nous étions avec des femmes du Myanmar, de Syrie, du Mali, du Sénégal, de Mexico. C'était vraiment merveilleux. Tous les soirs, nous organisions à tour de rôle un spectacle, par exemple, avec des chansons de notre pays, et nous passions nos dimanches ensemble. C'était vraiment bien. Sans parler la même langue, nous arrivions à communiquer. Dans le village, l'installation de l'énergie solaire a changé beaucoup de choses. Auparavant, la majorité des ménages utilisaient des lampes à pétrole, mais aussi des bougies et des lampes torches. Des dépenses qui pouvaient monter jusqu'à 5 euros par mois, ce qui représente beaucoup en milieu rural, sans pour autant constituer un éclairage satisfaisant. Une nouvelle solution proposée dans le cadre du projet Barefoot, une lanterne solaire pour environ 75 centimes d'euros par mois, ou un système solaire domestique qui alimente 4 lampes pour 1,50 euros. La majorité des habitants d'Ambakivao étant des pêcheurs, pouvoir compter sur un éclairage fiable la nuit est particulièrement précieux, témoigne Remesa.
C'est bénéfique pour tout le monde, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, lorsqu'on pêche la nuit, il est facile de repérer le village. On sait qu'on ne va pas se perdre. Et si on pêche pendant la journée, on peut s'occuper des poissons en rentrant le soir. On n'est pas obligé d'attendre le lendemain matin.
Je me rends maintenant chez Alphonsine Noarisoa, la vice-présidente du comité solaire. C'est une jeune commerçante de 24 ans qui a choisi de s'équiper d'un système solaire domestique qui lui permet d'éclairer l'intérieur et l'extérieur de sa maison.
Charge contrôleur.
Voilà, il y a une batterie qui est reliée au contrôleur de charge qui alimente les 4 lampes. Cela a surtout changé les choses pour les petites tâches du quotidien. Avant, quand il commençait à faire sombre, je devais les arrêter ou aller chercher plus de pétrole, ce qui me revenait beaucoup plus cher. Comme je cuisine à l'extérieur, j'étais souvent sur mes gardes, je regardais à gauche, à droite. Maintenant que j'ai un bon éclairage, je me sens plus sereine.
Au-delà de la lumière, la prise en charge par les communautés de leur accès à l'électricité favorise, selon Voirana Randriambola, le changement des modes de pensée au sein des villages très isolés.
En fait, quand on parle de la lumière ici, dans des contextes isolés, c'est pas seulement la lumière physique, mais c'est un peu... on dit en malgache, pas à vanne, la lumière psychologique, qui, c'est un peu comme un déclic qui est provoqué au niveau des ménages, pas seulement des femmes, mais aussi des autres membres de la communauté, qui voient que, ah d'accord, on sait faire autre chose que cultiver, que élever, que tout ce qu'on fait d'habitude, mais on est capable, même si on n'a pas été à l'école, même si on n'a pas de position dans la société, de faire des choses extraordinaires, comme apporter la lumière au niveau du village. Et c'est tout cet effet psychologique qui engendre un peu une dynamique au niveau du village où ils sont beaucoup plus intéressés à avancer vers des actions, des pratiques durables parce qu'ils se considèrent maintenant comme des communautés plus développées et donc il faut avancer de plus en plus vers le développement.
Prochaine étape, pour les ingénieurs solaires d'Ambakivao, l'entrepreneuriat solaire, c'est-à-dire la possibilité d'installer et de gérer des systèmes d'électrification dans les villages alentours. Par ailleurs, d'ici 2019, le ministère malgache de l'énergie a l'intention d'ouvrir, grâce au financement du gouvernement indien, un centre de formation Barefoot College dans les environs de la capitale malgache, Antananarivo. L'objectif constitue un réseau de 744 femmes ingénieures solaires d'ici 2030 afin d'assurer l'accès durable à l'énergie solaire de 630 000 ménages, soit 12% des ménages ruraux. Les femmes formées en Inde, y compris celles d'Ambakivao, assureront les cours à tour de rôle. Les difficultés restent nombreuses à Ambakivao, comme dans la plupart des zones rurales à Madagascar. L'absence d'eau potable, la baisse des ressources en poissons et l'érosion marine pèsent lourdement sur le quotidien. Mais l'esprit de fête est toujours présent et cette nuit, les célébrations se poursuivront jusqu'au petit matin. Pauline Bandelier, Ambakivao, RFI.
Un reportage de Pauline Bandelier réalisé par François Porcheron. Cyril Dion, dans votre dernier livre, Petit manuel de résistance contemporaine, publié chez Actes Sud, vous prônez la stratégie des petits pas. Alors, est-ce que cette initiative du Barefoot College indien et du WWF à Madagascar en fait partie ?
Oui, bien sûr. L'idée des petits pas, c'est que si on se lance dans quelque chose qui est trop grand et potentiellement difficile à réaliser, il y a de très fortes chances qu'on échoue.
Par exemple, si on dit je veux lutter contre le changement climatique, c'est perdu d'avance.
Bah oui, c'est un peu comme si, je sais pas, vous faites 120 kilos, vous mangez que du fast-food et vous buvez que des sodas, et puis du jour au lendemain, vous dites je vais manger tout bio et je vais faire une heure de sport par jour, quoi. Vous y arriverez pas. En revanche, faire 5 minutes de sport devant la télé, ça c'est possible. Et si vous y parvenez, c'est une petite victoire. Et cette petite victoire, elle donne de l'énergie pour faire une deuxième chose, puis une troisième chose, puis une quatrième chose. L'idée, c'est pas de se contenter de faire un petit pas, c'est de faire une succession de petits pas.
Mais alors, comment ça marche par rapport aux défis écologiques ?
Moi, je pense qu'il y a deux choses, en fait, qu'on peut faire. Deux questions auxquelles on peut essayer de répondre et qui peuvent nous permettre d'agir. La première, c'est de se dire, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est quoi l'impact sur la nature et l'impact sur les autres êtres humains ? Et au début, bah voilà, on commence par ce qui est le plus évident dans notre vie. C'est-à-dire de se dire, bah, là par exemple, quand je me déplace, je vois bien que si je prends ma voiture pour faire 3 km, ça va avoir un impact sur l'échauffement climatique. Alors que si je prends mon vélo, non. Bon, bah, ça je peux le faire, c'est facile, j'ai un vélo et...
Non, en même temps, il pleut, je suis fatigué.
Et bah, on commence par autre chose. C'est-à-dire de se dire, bah, aujourd'hui je mange de la viande tous les jours. Et je sais que manger de la viande, ça a un impact fort aussi sur le changement climatique. Je vais pas arrêter d'en manger du jour au lendemain, je vais pas devenir végétarien. Mais je vais arrêter d'en manger une fois par semaine. Il y a une fois par semaine, je vais manger que du végétal. C'est plus facile. Et si j'y arrive un seul jour, et ben, je peux y arriver un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et la deuxième question, à mon avis, qui est intéressant à se poser, et qui justement va au-delà des petits gestes. Parce que sinon, si on se contente de faire des petits gestes et que tout le reste de notre temps on fait des trucs qui vont à l'inverse, c'est un peu je travaille chez Total mais j'y vais en vélo. Voilà. Donc le problème c'est qu'on travaille chez Total toute la journée. Donc c'est de se dire finalement qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans la vie ? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever chaque matin ? Quelle est la chose pour laquelle j'ai du talent ? Et d'essayer de faire ça. Tous les gens qui ont changé la société, tous les gens qui changent le monde tous les jours, tous les gens qu'on peut admirer, que ça soit des scientifiques, que ça soit des artistes, que ça soit des profs, que ça soit même des responsables politiques, les quelques-uns qui sont formidables, c'est que des gens qui font des choses qui les passionnent. C'est jamais des gens qui travaillent pour avoir un salaire, qui rentrent chez eux le soir exténués en ayant envie d'être en vacances et qui jouent à Candy Crush. C'est pas ça. Donc, pour moi, la révolution, elle commence là parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est là qu'on commence à changer son histoire personnelle, qu'on commence à changer l'histoire du système, de se dire, moi, je suis pas sur cette planète simplement pour gagner un salaire, pour être un producteur-consommateur, pour faire tourner la machine. Je suis sur cette planète pour trouver qui je suis et pour faire quelque chose à la fois qui me rend heureux et qui est utile.
Merci, Cyril Dion, d'être passé dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Petit manuel de résistance contemporaine, c'est publié chez Actes Sud. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres, on se retrouve demain, même planète, même heure.